Bon, messieurs, mesdames, bon, nous allons donc reprendre l'exposé historiographique finalement que nous avions entrepris en introduction à une analyse du corpus divi avestique. Donc la fois précédente, lors de la dernière conférence, vous vous souvenez, je vous ai expliqué les fondements depuis Bartholomée d'une interprétation des Gathas en tant que sermon en vers dans le cadre de l'interprétation de Bartholomée, puis la modification de la perspective avec la reconnaissance par Helmut Humbach en 1959 que les Gathas étaient en réalité comme des hymnes, comme les hymnes védiques. Ils leur étaient étroitement apparentés par la rhétorique. Les observations de Humbach ne sont pas fondées sur rien, hein. Elles sont fondées sur un corpus massif de parallèles textuels, c'est-à-dire de phrases qui alignent au minimum, c'est trop peu en principe, mais c'est tout de même intéressant de relever, deux mots communs et dans la même interaction. S'il y en a trois ou quatre, c'est encore mieux, mais ce corpus de parallèles est extrêmement impressionnant et fournit désormais la base d'une interprétation, nous dirons, indo-iranienne des Gathas. Puisque nous avons des parallèles stylistiques et rhétoriques entre les hymnes du Rig Veda et les Gathas. Or, que s'est-il produit après Humbach, après 1959? Eh bien, il faut tenir compte de trois événements. D'abord, Humbach aurait pu en tenir compte, il ne l'a pas fait, parce que vous savez ce que sont les délais d'impression des livres, le fait de terminer une thèse que l'on va soutenir, etc. Mais quelques années avant la parution de son livre, 2 ans exactement, en 1957, dans le premier volume d'une nouvelle revue, les l'Indo-Iranian Journal, l'indianiste hollandais Frans Kuiper, en travaillant sur le nom d'Ahura Mazda et sur le système verbal, avait perçu un fait très important qui a amené à une régularisation massive de la métrique des Gathas. Les Gathas sont un texte en vers, mais ils présentent cette curieuse particularité d'être extrêmement irréguliers. Leur métrique est perturbée, en apparence, du moins. Or, la découverte de Kuiper va non pas régulariser entièrement la métrique gathique, mais tout de même, presque. Je dirais qu'aujourd'hui, si on applique le principe de Kuiper, il y a peut-être encore 3% des vers gathiques qui sont irréguliers. C'est très peu par rapport à ce qui existait auparavant. C'est une découverte de grammaire comparée, en réalité. Il faut savoir que depuis Ferdinand de Saussure et l'école néo-grammairienne, dont je vous ai parlé rapidement la fois la découverte des lois phonétiques, lors de la dernière conférence, les comparatistes avaient découvert qu'ils ne pouvaient pas régulariser les lois phonétiques des langues indo-européennes anciennes sans poser l'existence, à titre d'inconnu, de 3 phonèmes, qu'ils ont appelé les laryngales. Je ne vais pas entrer ici dans les détails de cette découverte qui a été essentielle pour la grammaire comparée, qui est aujourd'hui encore améliorable, a été très discutée, mais qui est tout de même un acquis extrêmement important de la grammaire comparée et qui l'a en définitive instituée comme science. Or, l'observation de Kuiper est la suivante. C'est que, alors que partout, dans toutes les langues indo-européennes anciennes, à l'exception d'une exception hittite, les laryngales indo-européennes que l'on postule théoriquement ont laissé une trace en gathique, sous forme d'un hiatus intervocalique. C'est une chose importante. Je vais donner un exemple linguistique, mais il n'est pas nécessaire de connaître le vieil avestique pour le comprendre. Un verbe extrêmement fréquent, je le pose sous sa forme radicale, en vieil avestique. Donc, vieil avestique en fait un usage massif. C'est le verbe « da ». Sous cette forme, se sont confondus en iranien deux verbes indiens. Le verbe « da », qui signifie « donner », et le verbe « da », pour ceux qui connaissent le grec, c'est « didomi », ceci c'est « titemi », le verbe « da » qui signifie « mettre, poser ». Donc, les deux, à cause de la disparition de l'aspiration, ces deux verbes se confondent dans un verbe unique en vieil avestique. Or, une des formes les plus fréquentes, c'est la forme d'aoriste. Une forme d'aoriste, troisième personne du singulier. On trouve fréquemment cette forme « dat ». Dat, troisième personne du singulier, d'un mode de l'aoriste. Mais là réside le problème. C'est ici que réside le problème. Cette forme « dat » peut être soit un injonctif, on en parlait la dernière fois, soit un subjonctif. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Si cette forme est injonctive, elle peut être traduite par un passé, par un présent parfois ou par un passé. Si c'est un subjonctif, c'est plutôt quelque chose qui s'apparente au futur, d'une manière ou d'une autre, hein, peut-être comme éventualité, comme futur rapproché, etc. C'est assez flou, mais quelque chose qui appartient à l'inaccompli, quelque chose qui se situe dans le futur. Pour traduire le texte et bien le mettre en perspective, il y a intérêt à savoir, à le savoir. Or, rien ne permettait de le reconnaître. Rien ne permettait de le reconnaître. Or, en faisant intervenir la restitution des laryngales, comme le font les comparatistes, ici, le verbe « da » donné, c'est la troisième laryngale, ceci la première, donc nous ne chiffrerons pas la laryngale, puisque nous ne savons pas quel des deux verbes nous avons à faire. Mais s'il s'agit de l'injonctif, je vais prendre la forme la plus simple, sans l'aspiration, donc. Nous avons donc la forme et celle-ci pour la racine et la laryngale que je représente par un H majuscule. La racine et normalement, c'est la disparition de la laryngale provoque l'allongement du A. Et donc nous avons la racine à l'état pur, sans suffixe, plus la désinence de troisième personne du singulier. Ça, c'est la forme d'injonctif. Donc, l'allongement avec la disparition, et nous avons « dat ». Subjonctif, maintenant. Eh bien, le subjonctif, de même, la racine, seulement le subjonctif possède un suffixe qui lui est propre, un suffixe secondaire, le suffixe qui indique le mode. Et ce suffixe, c'est tout simplement « a ». Plus la même désinence de troisième personne. Qu'est-ce que cela va donner? Eh bien, dans la graphie que nous possédons du texte gathique, la même chose, dat. Seulement, on peut imaginer que les choses, un stade intermédiaire, nous avons la racine, la laryngale est représentée par un hiatus et puis le suffixe. C'est très intéressant parce que, ici, une seule syllabe pour la métrique, ici deux. Eh bien, si l'on analyse les formes verbales « dat » de cette manière, on s'aperçoit que ça régularise la métrique. Parce que si la métrique exige deux syllabes, on posera le subjonctif, une seule, on posera un injonctif. Dès lors, nous sommes en mesure de distinguer une forme verbale qui appartient soit au présent, soit au passé, l'injonctif, et celle qui se rapporte à l'inaccompli, le subjonctif. Rumbard n'a pas eu le temps de tenir compte de ce fait-là. Et les analyses qu'il fait d'une forme verbale comme « dat », mais aussi de certaines formes nominales, hein, le nom de Mazda, par exemple, qui comporte le « da » dans sa déclinaison, est soumis à cette règle de survivance de la laryngale par hiatus. Cela, c'est la morphologie nominale, mais ça permet aussi de faire la distinction entre certains cas. C'est une règle extrêmement éclairante parce qu'elle peut résoudre un certain nombre de problèmes dans le texte. Évidemment, pour le système verbal, c'est essentiel. C'est essentiel parce que la distribution du temps est concernée. Eh bien, Hobbart n'a pas pu tenir compte de cette découverte essentielle. Toutes les interprétations des gathas qui suivront en tiendront plus ou moins compte, plus ou moins, j'y reviendrai. Mais en tout cas, cette découverte de Kuiper donnera lieu, 23 ans plus tard, en 1980, à un livre de son élève Robert Bacchus, qui est intitulé « A Grammar of Gatha Avestan ». « A Grammar of Gatha Avestan » et qui entérine le fait essentiel, parce que c'était un débat encore ouvert, mais que la graphie que nous possédons dans nos manuscrits du texte des Gatha ne reproduit pas la langue originale, mais traduit un certain nombre d'évolutions phonétiques qui se sont produites dans le cours de la transmission orale. Il ne faut pas voir dans ce fait une évolution naturelle de la langue, ce n'est pas cela qui est en question, c'est une langue figée qui est transmise au cœur d'une tradition précise par voie de transmission orale, mais cette transmission orale elle-même, elle varie inconsciemment au fil du temps. Et ce que nous possédons, la forme phonétique que la graphie du texte des Gatha nous livre, c'est celle de l'époque de la mise par écrit. C'est celle de l'époque de la mise par écrit. Et si la mise par écrit, c'est le VIe siècle de l'ère commune, voyez où nous en sommes par rapport à la langue originale. C'est là que nous en sommes. Si l'on faisait une édition, quelqu'un l'a faite, c'est une autre élève de Kuiper, faire une édition du texte en langue restituée, ce n'est pas un travail philologique, c'est un travail linguistique, il a ses limites, pour le spécialiste, ce n'est pas très intéressant, il le sait, il se représente les choses, bien... on pourrait représenter la forme injonctive sous la forme telle qu'elle est écrite encore dans nos manuscrits, mais on pourrait éditer le subjonctif sous la forme intermédiaire qui figure là-bas au tableau, avec le signe de l'hiatus. Je vous dis, c'est très limité comme intérêt parce qu'on sait que les choses sont comme ça. On l'a essayé en 1970, une certaine Maria Christina Mona, qui en avait fait l'objet de son doctorat auprès de Franz Kuiper. Alors, le deuxième événement dont il faut tenir compte depuis 1959, c'est une nouvelle interprétation, traduction-interprétation des Gatha, toujours selon le même schéma, texte, traduction, commentaire, par un Américain appelé Stanley Insler. Stanley Insler, 1975. Ou toujours sous le même titre, « The Gathas of Zarathustra ». Insler, c'est avant tout un très grand spécialiste du Védique. C'est un très grand spécialiste du Védique. C'est un esprit extrêmement perspicace, extrêmement érudit. C'est un des meilleurs spécialistes actuels du Védique. Mais la faiblesse de son interprétation et surtout son absence de familiarité avec la particularité, ce qui, d'une certaine façon, pour le travail de terrain, différencie l'avestique du védique, c'est la philologie, au sens de l'examen des manuscrits. Il n'a pas ça nuit à son travail, on le sent parfois, il n'a pas une idée extrêmement précise du rapport des manuscrits entre eux, du nombre de restitutions philologiques qu'il faut faire lorsqu'on traite un problème afférent au Gatha. La grande particularité d'Insler est dans l'interprétation. Nous en avons discuté la fois dernière. Quelle motivation les interprètes accordent-ils à cette innovation religieuse supposée que traduisent les Gatha? Eh bien, la réponse d'Insler est originale. Il parlera de mystique de la vision, une mystique de la vision. En quelque sorte, Zarathustra est quelqu'un qui voit le monde divin, qui voit ce qui se produit après la mort, qui accède donc au mystère de l'univers qui nous entoure. Bien entendu, cette vision, Insler la situe dans un mot particulier, qui fait d'ailleurs l'originalité aussi, du monde iranien par rapport au monde indien. C'est ce curieux mot d'Aïna, dont nous avons déjà beaucoup parlé, et qui semble effectivement un mot formé sur une racine qui signifie « voir ». C'est une âme individuelle, c'est une âme, mais c'est une âme qui ne réside pas nécessairement dans le corps. C'est une âme qui s'échappe du corps, et elle peut circuler sur le chemin du monde des dieux, sur le chemin du paradis, sur le chemin des lieux où habitent, cela est dit littéralement, où habitent les dieux. La daïna, oui, la vision. Mais cette mystique de la vision, ce qui est particulier à l'interprétation d'Insler, c'est qu'il la situe aussi dans un autre mot. Et alors ce mot, c'est très intéressant, c'est là que réside évidemment sa particularité, vous comprendrez tout de suite. C'est comme cela qu'il explique la fréquence de l'apparition du mot « vache » dans les gathas. La vache serait pour Insler une métaphore de la vision. Signifierait « the good vision », « the good vision ». La vache représenterait cela. Bon, ce n'est pas une idée qui lui est originale, c'est une idée qui est en préparation depuis longtemps. L'un de ses maîtres, un assyriologue, George Camon, avait déjà émis cette idée 10 ans plus tôt. Elle sera reprise par un collègue et ami de Insler, qui est Hans-Peter Schmidt, qui défendra aussi dans quelques articles cette interprétation des gathas. Cela a fait le succès de l'interprétation d'Insler. Un succès un peu négatif, en ce sens qu'on a beaucoup parlé de son livre, mais surtout pour le critiquer. Je suis le témoin de quelque chose qui n'a pas laissé de traces, parce que ce colloque n'a pas été publié. Mais dans le cadre du colloque annuel de la Deutsche Morgenländische Gesellschaft, en 1978, donc 3 ans après l'apparition d'Insler, Karl Hoffmann a organisé un petit séminaire à l'intérieur du colloque consacré à un examen du livre d'Insler. C'était puissamment intéressant. Malheureusement, aucune intervention n'a jamais été publiée. J'en ai donc un souvenir purement oral. Mais je puis vous confier, enfin c'est pas, je l'ai écrit, c'est pas un aveu, ceux qui ont assisté savent bien ce qui s'est passé, c'était une démolition en règle de l'interprétation du nom de la vache comme métaphore de la vision. Tout le monde s'est retrouvé dans cette critique. Donc on a beaucoup parlé de cette interprétation, mais généralement pour la nier. C'est aussi, d'ailleurs, soit dit en passant, nous allons y venir plus longuement, lors de ce colloque de 1978, que l'on a rectifié l'incohérence de Humbart, dont je vous ai parlé à la fin de la semaine dernière, cette destruction des bases linguistiques de l'eschatologie vieille avestique. Alors que dans son introduction au système religieux des gathas, il plaçait la grande innovation des gathas. Il plaçait l'eschatologie en tête des innovations gathiques. C'est lors de ce colloque aussi que chacun s'est retrouvé pour considérer qu'il fallait singulièrement atténuer la place de l'eschatologie dans la doctrine gathique. C'était les deux grandes tendances de cette longue discussion entre spécialistes. Presque tout le monde était là, presque tous les spécialistes des gathas. Mais c'était donc l'idée. Il fallait renoncer à une interprétation métaphorique de la vache dans les gathas, et d'autre part qu'il fallait atténuer la part d'eschatologie qu'on voulait bien y lire. C'est le deuxième événement qui finalement laissera peu de marques. Le livre d'Insler est aujourd'hui un peu oublié. Peut-être à tort d'une certaine façon, et j'y reviendrai pour ma part sur ma position personnelle vis-à-vis de ce que je trouve de positif dans ce livre. J'y viendrai tout de suite. Mais le troisième événement, ensuite, il est dû à une élève de Karl Hoffmann, Johanna Narten. Johanna Narten a consacré sa thèse d'habilitation à un texte avestique qui s'appelle le Yasna Haptankaiti. Texte qui n'avait jusque-là été que très peu étudié. Le titre, c'est un titre avestique, c'est déjà intéressant. Il est très rare que nous connaissions le titre avestique des textes avestiques. Ce que nous possédons, en général, c'est le titre moyen iranien. Mais le Yasna Haptankaiti, c'est un gage d'ancienneté, bien entendu, porte un titre avestique. Yasna, sacrifice, et Haptankaiti, composé de 7 chapitres. Donc, c'est effectivement le nombre de ces chapitres. Donc, ça signifie sacrifice en 7 chapitres. Bon, cette thèse sera soutenue, pour vous situer les choses avec précision dans le temps, en 1969. Selon une habitude chère à l'école de Hoffmann, les choses traîneront ensuite. Car de cette thèse, qui ne sera pas publiée avant un certain temps, Johann Anarten tirera finalement deux ouvrages. L'un, que je vous en ai déjà parlé, des deux, hein, je me répète, l'un est « Die Amschas Penta », les Amschas Penta, ce panthéon de substitution, « Die Amschas Penta im Avesta », 1982, qui est consacré plus précisément au système religieux du Yasna Haptankaiti et à sa comparaison avec celui des Gata. En réalité, ce livre poursuit un but pratique. C'est de débarrasser l'édition future du Yasna Haptankaiti de ce qui paraît comme un appendice un peu hétérogène et qui n'entre pas spécifiquement dans le cadre d'une édition de texte. Et enfin, trois ans plus tard, en 1985, paraîtra son édition même, donc texte, traduction, commentaire du Yasna Haptankaiti. Dès 1969, dès sa soutenance de thèse, donc, dans plusieurs articles, Johann Anarten avait proposé, pas seulement proposé, mais elle avait pratiqué d'emblée, de substituer l'appellation vieille avestique à gathique. Donc, jusqu'à Narten, 1969, y compris Humbart, la vieille appellation de Haug, hein, l'opposition entre un corpus ancien rédigé dans la langue gathique et un corpus plus récent rédigé dans une langue que l'on appellera avestique récent, va se transformer en une autre appellation qui, elle, est parfaitement cohérente puisqu'elle l'oppose clairement, explicitement, par leur antiquité respective, deux états de la langue. Donc, d'une part, le vieil avestique, d'autre part, l'avestique récent. Ça mettra un certain temps à s'imposer. C'est aujourd'hui presque universellement admis. Et vous savez que lorsque je ne fais pas un cours historiographique où j'envisage les interprétations antérieures des Gata, je parle de vieil avestique au lieu de gathique parce que c'est, c'est, je pense, un des acquis définitifs de notre science. Pourquoi cette substitution de termes? Eh bien, elle est fondée sur l'observation que le Yasna Haptankaiti est un texte lui aussi ancien. Un texte du même âge que les Gata, peut-être pas, nous n'avons pas de chronologie fixe. Alors, ce texte, peut-être qu'il est un peu plus vieux, peut-être qu'il est un peu plus récent. Mais le degré d'évolution de la langue est le même. Les deux langues sont identiques ou à peu près, très peu de choses près. Il n'est même pas nécessaire de discuter les quelques différences que l'on peut relever entre les deux langues parce qu'elles peuvent relever d'autres choses. Elles peuvent relever de leur technique littéraire. Donc, les langues sont identiques, disons-le comme ça, au mépris de certaines nuances pour être précis. Mais les deux langues sont identiques et elles illustrent le même niveau linguistique. Alors, on doit renoncer au terme gathique. Ben, cette langue n'est plus l'apanage exclusif des Gata. Elle est celle d'un autre texte. Dès lors, on va accorder un sens plus large à la langue de ces deux textes en parlant de vieil avestique. Nous voici avec autre chose. Voici avec autre chose. Le corpus des textes anciens n'est plus du tout celui de Haug. C'est cela qui est important avec l'intervention de Nartini. Ce que Haug considérait comme l'Avesta ancien, c'est-à-dire les gatha et les gatha seulement, il n'en est plus question. Nous avons affaire à toute autre chose, à quelque chose de composite, à un autre corpus de textes, vous me direz, au lieu d'un, oui. Ben, nous allons voir les choses de manière plus précise. Où se situe-t-il, cet Avesta ancien? Comment se distribue-t-il? Bon, mais nous pouvons dire que l'Avesta, je vous le rappelle, hein, ce sera plus clair si je vous le rappelle, est composé de trois livres essentiels. Le Yasna, qui signifie sacrifice. Les Yasht, qui sont des hymnes aux dieux autres que Ahura Mazda, hymne individuel. Et un livre Videvdat, hein, rituel qui écarte les démons. Eh bien, alors il y a deux livres qui sont un peu des compléments des autres. Le Visprat, toutes les normes, qui est une sorte de complément au Yasna, et ce qu'on appelle le Korda Avesta, l'Avesta bref, qui est composé. Ce sont des rites saisonniers, mais qui sont la plupart du temps extraits des Yasht. Donc ce sont, pourrait-on dire, deux livres secondaires. Eh bien, voilà les cinq livres de l'Avesta. Le corpus ancien se situe au cœur du Yasna, au cœur du Yasna. 72 chapitres, 72 chapitres, le Yasna. L'Avesta ancien est organisé comme ceci. Yasna 28 à 34, une gatha. Une gatha. Yasna 43 à 51. Trois gathas, l'une après l'autre. Et puis, Yasna 53, la dernière gatha. Voilà le texte des gathas. Vous voyez, il y a quelques lacunes. Quelques lacunes. Que sont les autres textes? Eh bien voilà, le Yasna Haptankaiti se situe ici. Entre la première gatha et les trois gathas qui viennent à la suite, il occupe le Yasna 35, à l'exclusion de sa première phrase, qui est une intercalation en avestique récent, introductive. Yasna 35, 2, donc à partir de la deuxième phrase, et jusqu'au Yasna 41. Donc, il est introduit dans le corpus gathique. Ça m'a fait dire un jour, mais je ne le dirai plus parce qu'il y a d'autres détails qui l'empêchent, que la veste. Mais l'image, prenez-la pour ce qu'elle vaut, mais elle parle tout de même. Hein, c'est que le Yasna se distribue comme un double écrin. Les textes en récent sont l'écrin des textes en vieil avestique. Et à l'intérieur du corpus vieil avestique, les gathas servent d'écrin au Yasna Haptankaiti. C'est curieux, hein? C'est curieux, puisqu'on accorde la grande importance aux gathas comme le fondement doctrinal du mazdéisme. Or, le Yasna Haptankaiti est là au centre, au cœur, pas au cœur. Bon, vous voyez bien où se situent les intercalations récentes. Il y en a deux, en définitive. C'est le Yasna 42. Les auteurs de l'Avesta récent le savent. Ils le savent. Ils savent que ce ne sont pas des textes à mettre sur le même pied que les autres, ils le savent. Et le Yasna 52, c'est aussi une intercalation en avestique récent. Nous n'avons donc pas à faire la critique de la conception qu'ils avaient de ces deux chapitres. Ils savent très bien qu'ils ne font pas partie du corpus ancien. Bien, alors voilà l'image que nous avons. Il faut ajouter quelque chose, je l'ajoute tout de suite. Ce n'est pas Nartène qui l'a fait, c'est Éric Pirard et moi un peu plus tard. Ce corpus n'est pas aussi nu que cela. Il est introduit par trois formules, ce que les zoroastriens d'aujourd'hui appellent des prières. Mais je n'aime pas ce mot parce qu'on ne sait pas si ce sont des prières et qu'on ne sait pas ce qu'est une prière pour un zoroastrien. Il vaut mieux oublier ce mot pour ne pas avoir d'analogies trompeuses qui vous viennent à l'esprit. Alors, je préfère parler de formules. Ce sont donc des textes très courts, une strophe en général. Ces strophes, c'est les Yasna, ceux qui précèdent directement, hein, 27, 13, 14 et 15. Mais 14 et 15 sont des textes en avestique récent aussi. Là, c'est un autre statut. Là, les auteurs de l'Avesta récent leur accordent la même autorité qu'au texte vieil avestique. Pas la même chose que l'Yasna 52 et 42, mais c'est un autre problème. Donc, Yasna 27-13, linguistiquement, c'est le corpus ancien. Et puis, l'inverse, après l'introduction, la conclusion. Il y a une formule conclusive, le Yasna 54-1. Le Yasna 54-1. Avec cela, nous avons terminé la description du corpus ancien d'un point de vue linguistique, d'un strict point de vue linguistique. Voilà ce que nous avons. Ces textes, les formules introductives et conclusives sont elles aussi métriques. Formule conclusive, les gatha, à l'intérieur des gatha, le yasna haptankaiti. Désormais, qu'est-ce que cela change? Qu'est-ce que cela change? Eh bien, indépendamment du fait que nous n'avons pas le même corpus, cela change énormément de choses parce que le Yasna Haptankaiti et les Gathas sont des textes fort différents. Cela, Nartain l'a fort bien mis en lumière dans son analyse. Qu'est-ce qui les différencie? Bien, la première différence, elle paraît n'avoir d'intérêt qu'historique. Les Gathas sont des textes métriques, ce sont des poèmes. Le Yasna Haptankaiti est un texte en prose, de la très belle prose. Ceux d'entre vous qui ont fait du sanskrit savent ce qu'est un brahmana. La grande prose védique, très articulée, très savante, ce que les Allemands appellent Kunstprosa, une prose d'art, ce qui est intéressant parce que ça contrevient un peu à l'image convenue que nous avons que toutes les littératures très anciennes sont en vers. Ben non. Aux sources de la littérature iranienne, les deux grandes distributions littéraires que nous connaissons, de la prose et le vers, sont là. Et elles relèvent chacune de leur technique particulière, savante et traditionnelle. Mais cela signifie aussi que nous avons un texte iranien, c'est ça l'intérêt historique des choses, un texte iranien qui se rattache à une tradition pareille à celle des brahmanas indiens. Il y a eu une tradition de la prose iranienne très ancienne, apparentée à la prose brahmanique. Pas le contexte indo-iranien devient beaucoup plus complet. Ça, c'est la première des différences. Il y a un petit détail aussi qui rend cette différence assez intéressante. C'est qu'il semble, je dis bien il semble parce que je suis prudent, mais que les gathas font la critique de cela. Les gathas, dans un vers gathique, semble vouloir dire ceci. Moi, je ne vais pas vous parler, on parle au Dieu, je ne vais pas vous parler en prose, je vais faire des vers. Ce qui semble tout de même petit élément de polémique sur la forme que doit avoir le langage religieux. L'idée qu'il y a un texte en prose, un texte en vers, induit à une différence interprétative, celle-là, sur la nature des deux textes. Si les gathas, comme Humbard l'a montré, en vers, sont des hymnes, que peut bien être le Yasna Haptankaiti? Nartain ne dira pas le mot. Mais son élève Almut Hintz, plus tard, dans une nouvelle traduction du Yasna Haptankaiti, qui ne diffère d'ailleurs en rien de celle de Nartain, en 2009, le dira dans un sous-titre où il appellera le Yasna Haptankaiti Zoroastrian Liturgy. Donc Almut Hintz. Voilà l'idée lancée, qui est certainement celle que voudrait imposer Almut Hintz, c'est que les gathas hymnes s'opposent, non pas de manière polémique, mais s'opposent comme genre à un Yasna Haptankaiti liturgie. Nous aurions affaire à deux genres qui se... c'est une chose intéressante, parce que dans l'optique de Hintz, les gathas n'ont pas immédiatement un usage rituel. Ce ne sont pas des textes rituels pour Almut Hintz. On peut faire des hymnes, on peut chanter la gloire des dieux, s'adresser à eux, sans que cela entre dans le cadre d'une cérémonie rituelle, dans le cadre d'une œuvre personnelle comme est supposée l'être celle de Zarathoustra, bien entendu. Mais le Yasna Haptankaiti, par son titre même d'ailleurs, ce titre même de sacrifice, apparaît lui comme un texte composé pour un usage rituel. Ce serait donc la liturgie vieillavestique par rapport à l'hymnaire élogieux, eulogique, dirait Aurédine Arten, n'est-ce pas, d'Egata. Deuxième différence, elle est intéressante aussi dans le cadre d'une doctrine religieuse que l'on a parfois définie comme dualiste, c'est-à-dire opposant une divinité incarnant le bien à une divinité peut-être secondaire incarnant le mal. Mais c'est une divergence qui apparaît aussi sous un jour rhétorique. Pour le dire dans les termes des spécialistes américains de ce type de littérature, les Gathas pratiquent un genre qu'ils définissent comme « praise and blame », « louer et blâmer ». C'est-à-dire, les hymnes védiques aussi, parfois, ce n'est pas le propre des Gathas. La démarche rhétorique des Gathas consiste à faire l'éloge de quelqu'un, ou de quelque chose, une conduite, une offrande, etc., et de la sortir immédiatement de la critique, de ce qu'elle n'est pas, de ce que cette divinité n'est pas, de ce que cette offrande n'est pas, de ce que cette conduite n'est pas. C'est-à-dire qu'elles ordonnent en permanence une double démarche, l'une positive, l'autre négative, l'éloge et la critique. Bien. Dans le texte de Gatha, c'est frappant. Dès que l'on a exprimé la haute appréciation de ce que l'on a de quelque chose, on va vous dire ce que l'on n'apprécie pas du tout. C'est un trait spécifique. Ça nous amène d'ailleurs, tout dit en passant, mais mon but n'est pas là pour l'instant, hein, de sérieusement relativiser ce que l'on appelle le dualisme. On le savait. Niebuhr le savait, par exemple, il l'a dit. On voit bien que c'est en fait ce dualisme, il a en fait ses sources, ses racines dans la rhétorique et dans cette ce qu'il appelait, lui, non pas le praise and blame, mais il appelait ça la Doppeldeutigkeit, pas en allemand, c'est-à-dire la mise en contraste permanente de deux choses. C'est l'évidence, n'est-ce pas ? Ça a été un peu oublié parce qu'on a fait de cette mise en contraste de certaines choses, une sorte de facteur religieux, alors qu'il s'agit au départ, dans les hymnes du Rig Veda, comme dans les Gathas, d'une sorte de technique de la rhétorique, hein, profonde. Alors, la différence ici est intéressante parce que le Yasna Haptankaiti ne contient rien de négatif. Rien de négatif. C'est un texte qui est essentiellement praise, pour le dire, selon cette habitude rhétorique. Texte uniquement positif. Là aussi, nous avons des équivalents védiques. Un hymne du Rig Veda à Indra, à un moment donné, le chantre dit nous avons des détracteurs, ben, ils nous critiquent. Mais nous, non, n'allons pas faire cela. Au Indra, on lui parle, nous, on va t'adresser des mots qui sont essentiellement dyumna. Ils sont essentiellement amicaux, positifs. C'est uniquement de l'éloge. Nous ne ferons la critique de rien du tout. Nous ne conduirons pas comme ça. Donc, c'est un fait rhétorique conscient. Comme la prose semblait être un fait rhétorique conscient également, dans le cadre même peut-être d'une théorie littéraire. Donc, ça nous conduit certainement à ici une relativisation générale du dualisme, mais c'est une chose que je vous dis en passant. Alors, troisième différence, les gathas sont rédigés parfois en je. Parfois, la personne censée parler dit je. Parfois, elle dit nous. Mais beaucoup plus souvent en je. Le Yasna Haptankaiti ne dit que nous. Nous. C'est un texte à la première personne du pluriel. Cela semble avoir un certain nombre de corollaires. Les gathas font une fois, chaque gatha le fait une fois, pas deux, mais chaque gatha le fait une fois. Le gatha dresse le catalogue d'un certain nombre de personnes, dont Zarathoustra d'ailleurs est nécessairement la première. Catalogue donc, je ne sais pas de qui, hein, qui sont ces gens, bien sûr. Nous avons leur nom, je ne peux pas dire que ce sont des sacrifiants, je ne sais pas. Ce sont des membres d'une même famille, c'est une possibilité aussi. Mais il y a un catalogue de personnes, un catalogue de personnages. Aucun nom propre dans le Yasnavaptankaiti. Ah, c'est un fait complémentaire du nous. Le nous est anonyme, le je ne l'est pas. Hein? C'est une remarque que l'on peut faire. Fatalement, ça c'est le deuxième corollaire de l'observation, si aucun nom propre n'est cité, il y en a un certainement qui n'apparaît pas, et c'est très frappant, c'est celui de Zarathoustra. Hein? Le nom de Zarathoustra n'est pas mentionné dans le Yasnavaptankaiti. Je ne crois pas que ça ait une importance considérable. Mais cela dépend certainement aussi de la rhétorique en nous, de la rhétorique de première personne du pluriel. Et les choses deviennent beaucoup plus compliquées avec l'analyse de Narten. Alors, Narten, un peu d'une autre manière, si vous voulez, que l'a fait Humbart, va freiner. Elle va freiner, après avoir dégagé ces faits qui sont tout de même très, très perturbants. Et je dirais qu'elle a mis au point une variante du principe du guépard. Sa démarche a été, maintenant que j'ai tout changé, qu'est-ce que je peux bien faire pour que tout reste pareil? C'est certainement cela que... C'est l'impression que l'on gagne de Narten. Eh bien, c'est très simple. C'est un coup de force très simple, qui n'est fondé sur rien. Elle va dire, mais le Yasnavaptankaiti, il est aussi ancien que les Gathas, et il doit être lui aussi l'œuvre de Zarathoustra. Bon, qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Absolument rien, sauf ceci, selon Narten. Il est normal, dit-elle, que le nom d'un auteur n'apparaisse pas dans son œuvre. Oui. Mais alors pourquoi apparaît-il dans les Gathas? Donc c'est, je crois, un argument absolument irrationnel. Mais il est assez intéressant de voir que cet argument a certainement contribué à la très bonne réception qu'a eu le Yasnavaptankaiti de Narten. Mary Boyce a écrit quelque part, quelques années plus tard, que le fait que Zarathoustra était l'auteur du Yasnavaptankaiti était l'une des grandes découvertes de l'iranologie du XXe siècle. Ce n'est pas une découverte, c'est une affirmation. C'est une affirmation. Bon, je n'ai rien contre ça, bon, on peut le dire, c'est pas, la question n'est pas là. Mais la question, c'est que cela nous invite à ne pas réfléchir sur les différences qui existent entre le Yasnavaptankaiti et les Gathas. Or, vous êtes dans l'analyse que nous allons mener aujourd'hui, nous allons voir aujourd'hui, je veux dire, dans les leçons qui vont venir, nous allons voir l'importance que peut avoir des traits grammaticaux extrêmement ténus, mais qui ont leur importance dans le cadre rhétorique et qui sont ces variations de nombres, justement, ces variations de personnes. Pas seulement de la première, d'ailleurs, aussi de la troisième à la deuxième, etc. Ces variations sont permanentes dans les Gathas. Elles sont figées dans le Yasnavaptankaiti. Elles sont figées. La première personne du pluriel est figée, etc. Mais ce sont des facteurs qu'il ne faut pas sous-estimer et qui méritent un examen. Alors, nous allons faire rapidement aussi, parce que ce n'est pas notre but, mais j'aime bien situer les choses. Qu'est-ce que Narten a changé à la conception que nous avions du mazdéisme ancien, celui du corpus ancien? Le monothéisme, oui. Vous avez parlé du panthéon de substitution des Ameshaspata. Or, ici aussi, Narten a été révolutionnaire. Mais en 1982, trois ans avant l'apparition du Yasnavaptankaiti. Elle va montrer que ce corps d'entités, n'est-ce pas, dont je vous ai parlé la dernière fois, de six entités subordonnées en Aromazda, n'était pas fixé dans la Vesta ancienne, ni dans les Gathas, ni dans le Yasnavaptankaiti. Mais que nous avions dans chacun de ces textes, à peu près équivalent d'ailleurs, n'est-ce pas, un corps de divinité encore flou, en nombre indéterminé, en quelque sorte que la rhétorique des Gathas et celle du Yasnavaptankaiti étaient encore libres de produire des entités divines. Leur nombre est indéterminé, elle va dresser une échelle de probabilité, bon, c'est pas cela qui nous intéresse ici, mais il n'y a pas encore de corps de six entités. Toutefois, elle maintiendra l'idée que ces entités sont des divinités abstraites, intéressant dans le cadre du système religieux qui est considéré comme abstrait hein, pour l'Avesta ancien, et aussi que ce panthéon est un panthéon de substitution. Mais c'est un panthéon de substitution qui n'est pas composé d'emblée, qui est en voie de formation, et qui plus tard sera figé en un groupe précis de six entités. Je ne m'attarde pas beaucoup sur ce facteur parce que nous aurons l'occasion d'y revenir, peut-être pas cette année, mais nous aurons l'occasion. Alors, l'eschatologie, ben oui, je vous ai parlé du colloque d'Erlangen en 78, eh bien, Nartène a tiré effectivement, elle, nettement la conclusion des analyses grammaticales de Humbart. Les formes verbales ne sont pas spécialement ni fréquemment attachées au futur. Il n'y a pas de mots qui spécifiquement désignent les événements de la fin des temps, etc. Et la tendance de Nartène, qu'elle représente encore aujourd'hui et qui persiste chez son élève Helmut Hinz, est très certainement d'accorder au texte vieil avestique, en tout cas, qu'une eschatologie extrêmement limitée. La conception que Nartène et Hinz se font du masdéisme de l'Avesta ancien est très fortement non-eschatologique. L'eschatologie n'est pratiquement éliminée du texte. Sont tirées les conclusions de ce qu'avait fait Humbart. Par contre, leur conception anticléricale et antisacrificielle du zoroastrisme est fortement accentuée. Fortement accentuée. Je sais que je suis en 2004, c'est un colloque à Heidelberg, je vais dire engueulé parce que c'était le mot qui convient, par Helmut Hinz, c'est ce qui traduit mieux le ton qu'elle pouvait utiliser, parce que je parlais de sacrifice. Parce que simplement je traduisais le mot yasna par sa traduction la plus simple, la plus évidente, la plus réelle, le sacrifice. Mais dans l'esprit d'un anglais ou d'un allemand, ben, le sacrifice implique l'immolation animale. Je vais expliquer pour atténuer les choses qu'en français, non, parce que nous pratiquons le néologisme récurrent qui consiste à donner au mot sacrifice le sens latin du terme, c'est-à-dire rendre sacré, introduire dans un espace sacré, tout, et malgré tout, pour ne pas faire de compromis faux, quoique je suis persuadé, persuadé qu'il y a une immolation animale dans le rite de l'Avesta ancien. Voilà donc l'apport de Nartène et de Hinz. C'est un apport qui a été, dont les aspects révolutionnaires ont été gommés, mais qui nous invite en réalité à la réflexion. Quel rapport peut-il bien y avoir entre ces deux textes, dont la langue est si semblable, mais dans la pratique littéraire, nous paraît au fond si différente, si différente, et qui semble jouir pour les auteurs de l'Avesta récent d'une autorité comparable, puisque on les situe au cœur du rituel, quelque part au cœur du rituel. Alors, il me reste un peu de temps, mais je vais y venir. Je n'aurai pas le temps peut-être d'aller beaucoup plus loin, mais je vais commencer. Et il faut bien que je vous parle de moi, excusez-moi, puisque entre 1988 et 1991, je vais publier avec Éric Pirard une analyse en trois volumes des textes vieil avestiques sur le modèle courant, c'est-à-dire texte, traduction, commentaire, mais nous y ajoutons, c'est la nature du deuxième volume, un lexique et aussi un répertoire grammatical. Je fais l'historique de l'entreprise parce que historiographiquement, ça présente une certaine importance. Bon, j'étais peut-être l'objet d'une certaine fatalité. Duchesne d'Imain m'a initié à l'avestique à partir de 1965. Durant les 9 années où j'ai été son étudiant jusqu'à mon doctorat, j'ai lu les Gathas avec Duchesne d'Imain. Donc l'homme de 1948. Les 6 années qui ont suivi, j'ai été l'assistant de Helmut Humbart. J'ai lu les Gathas avec Humbart. Durant ces années 70, elles ont été marquées par beaucoup de discussions sur l'interprétation d'Insler. C'est donc un contexte qui invitait à une analyse du corpus gattique. En 1980, je rentre à Liège, je prends la succession du Duchesne d'Yvelines, et je trouve deux étudiants extrêmement doués qui me demandent de lire les Gatha avec eux. Nous l'avons fait pendant 2 ans. Tous les samedis, nous voyions et nous lisions les Gatha. L'un d'entre eux était Éric Pirard. Donc nous avons, à la suite de cette lecture de 2 ans, nous avons décidé de mener ensemble, en commun. Ça n'a pas été facile. Collaborer sur un sujet comme les Gatha, je vous assure, ça suppose pas mal d'empoignades. Mais nous avons donc mené cette analyse en une petite dizaine d'années. Cette dizaine d'années, c'est long, mais cela s'explique du fait que de notre situation professionnelle à l'un et à l'autre, moi j'entreprenais le début d'un enseignement universitaire que je devais organiser. Éric Pirard était professeur dans le secondaire à cette époque, donc nous ne pouvions pas travailler avec la vitesse que nous souhaitions. Mais enfin, en une petite dizaine d'années, nous avons mené à bien cette entreprise. Quel était notre but? Quels étaient nos principes directeurs dès le départ? Eh bien, il fallait mettre à jour Humbart. Il fallait intégrer à l'analyse de Humbart le principe métrique de Kuiper. Il ne l'avait pas fait. Il fallait faire cela. Ce n'était pas grand-chose. Notre deuxième principe directeur, c'était de compléter le travail grammatical de Humbart, qui nous paraissait essentiellement morphologique. Les formes verbales, la conjugaison, la déclinaison étaient parfaitement analysées, avaient trouvé une expression extrêmement précise et difficilement perfectible, mais quelque chose restait en friche, et c'était la syntaxe. C'est pour cela que nous avons décidé de faire des répertoires grammaticaux. Tous nos répertoires grammaticaux sont syntaxiques. Donne une espèce d'analyse de la syntaxe. Or, cette nécessité de la syntaxe, elle avait deux fondements. D'abord, Insler. Je vous avais dit, j'y reviendrai, parce que ça me paraît que le livre... me semble que l'une des qualités centrales du livre d'Insler, c'est d'avoir été plus que les autres attentif aux problèmes syntaxiques. Il y a une ébauche de syntaxe chez Insler. Et cela nous montrait que c'était certainement une voie qu'il fallait approfondir. Aujourd'hui encore, je pense que si Insler a parfois des choix malheureux dans l'interprétation des formes grammaticales, je crois qu'il a vraiment initié l'analyse de la syntaxe des Gatha et que c'est cela son prix. D'autre part, c'était notre admiration à tous deux, Éric Pirard et moi, pour un indianiste français de génération précédente et qui était Armand Minard. Armand Minard avait produit en 1936 la subordination dans la prose védique, ensuite en 1949 et 1956 deux volumes intitulés « Trois énigmes sur les 100 chemins ». Ce sont de superbes analyses de la syntaxe, de la prose védique. Ah oui, la prose védique, c'était particulièrement intéressant pour nous à l'époque où le Yasna Aptankhaiti entrait en ligne de compte pour l'analyse des Gatha. Pension trouvée, bien sûr, chez Armand Minard, et nous l'avons trouvé effectivement, une voie d'accès à cette littérature que Nartène certainement n'avait pas explorée. Les implications du travail d'Armand Minard pour non plus la prose, mais la poésie indo-iranienne, nous paraissaient avoir été vivifiées par un savant contemporain, celui-là, un homme très particulier, particulièrement sympathique et très discret, qui s'appelle, je ne sais pas, c'est un Américain, je ne sais pas comment je dois prononcer ça, à l'américaine, il s'appelle Jared Klein, disons, pour le dire à la française, qui n'est pas un homme ni de la Nouvelle-Angleterre ni de la Californie, mais qui est professeur dans le sud profond, en Géorgie, et qui a consacré sa carrière à des études de syntaxe. Il a fait paraître en 1985 un très beau livre sur le jeu des particules dans le Rig Veda, et qui s'appelle « Tawat, a Discourse Grammar of the Rig Veda ». Il poursuit aujourd'hui son activité, ses études syntaxiques, mais ce livre nous avait paru très séduisant, et séduisant au point qu'Éric Pirard a voulu faire le même type d'ouvrage pour les gathas et a consacré sa thèse de doctorat à l'analyse des particules gathiques. Voilà donc notre troisième souci. L'autre était méthodologique, le dernier. C'était partir de rien, comme si nous ignorions tout. Un parti pris expérimental, puisque finalement l'étude des gathas commence, pourquoi ne pas le reconnaître explicitement dans la démarche que nous allons adopter. Dire que nous ne savons rien, comme si toute la littérature précédente n'existait pas, sauf grammaticale, bien entendu. Hein. Sauf grammaticale, ça, certainement. Hein. Mais d'ailleurs, ça transparaît dans le titre. Les titres de notre discipline, je vous l'ai dit, sont toujours significatifs. Nous avons dit les textes vieilles avestiques. Le nom de Zarathoustra a disparu, vous voyez. Nous voulions simplement savoir qu'y a-t-il dans ces textes-là. Je ne vais pas revenir sur les caractéristiques que nous avons attribuées au texte parce que nous allons les revoir méthodiquement, n'est-ce pas, ici, ensemble, si vous voulez bien. Je ne vais pas vous parler du monothéisme, sauf pour vous dire que nous avons reproché à Johannes Arten d'avoir restreint l'accession au rang d'Ameshaspenta à des abstractions. Dans la liste des entités du Yasna Haptenkaiti figure en réalité des départements de la nature. La terre et les eaux sont des Ameshaspenta. Ce ne sont pas des abstractions, ça. Il y a des secteurs de l'univers qui entrent dans ce processus de déification. Hein. Donc, c'était la seule chose, je la signale ici parce que ça contraste, que nous ayons expliqué. L'eschatologie, ça c'est gênant, c'est gênant. Nous sommes partis sur les mêmes bases que Narten, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'eschatologie dans les gathas. Et plus nous travaillions, plus il nous apparaissait que c'était essentiel dans le message des gathas. Alors ça a produit une situation dommageable, il faut aussi le savoir. Situation dommageable, c'est que j'ai rédigé l'introduction au texte de vieille avestique sur ce parti pris anti-eschatologique. Il est donc faux aujourd'hui, j'ai dû rectifier plus tard. Mais dans le volume des textes vieille avestique, nous n'avons pas accordé beaucoup d'importance à l'eschatologie. Nous l'avons fait chacun, Éric et moi, ensuite. Mais ça n'apparaît pas dans le livre qui a commencé à paraître en 1988. Nous avons changé de direction en cours de route et c'est, bon, je le regrette, mais je ne pouvais pas faire autrement. Hein, puisque plus tard, j'ai reconnu avoir semblé que je ne devions accorder plus de place à l'eschatologie. Nous y viendrons, c'est un de nos programmes. Alors, je ne m'attarde pas là-dessus. Par contre, ce que nous avons fait, c'est accentuer le rôle rituel des gathas. Et ce qui a déchaîné la critique, n'est-ce pas ? Ça a déchaîné la critique. Les gathas ne pouvaient pas avoir été composés pour servir de liturgie. Nous, ils nous pensaient que ça l'était. Et alors, étrangement, avec le temps, je vais finir sur cette remarque, les critiques qu'on a pu nous faire se sont inversées. Le ritualisme aujourd'hui est plutôt accepté. Il est même de plus en plus accepté. Par contre, ce qui ça nous a déçus à un moment donné est passé au second plan, c'est tout l'effort que nous nous sommes donné pour arriver à des semblants de règles grammaticales dans les répertoires grammaticaux. Peu de gens en tiennent compte. Je n'en suis pas amer personnellement, ce n'est pas cela, mais parce que j'ai constaté en réfléchissant que ça n'était pas un problème qui nous concernait précisément. Je me suis rendu compte, devant ces réactions, que beaucoup d'analystes aujourd'hui, y compris Narten par exemple, sont extrêmement réticents à admettre le principe métrique de Kuiper. Ne se réfèrent jamais aux analyses de Klein, ignorent superbement Armand Minard. Il y a tout un pan de l'analyse grammaticale de l'indo-iranien qui est injustement négligé. Hein. Là, c'est quelque chose qui me gêne un peu. C'est quelque chose qui me gêne un peu. Lorsque l'on fait une analyse fondée sur la distribution de la particule de coordination, mais on ignore superbement les possibilités de structure de coordination. Nous aurons l'occasion peut-être d'en parler dans certains cas. Il y a un laxisme grammatical qui reste de mise. Bon. Donc ce n'est pas cette, cette, cette espèce de négligence des faits grammaticaux n'est pas une critique qu'on ait pu nous faire, ce n'est pas cela. Je vais vous laisser ici, je vous remercierai de votre attention. J'essaierai donc, lors de la leçon prochaine, il y a très peu de choses, là c'est pas long, nous pourrons avancer un peu plus rapidement, expliquer ce qui s'est produit après la parution des textes vieillavestiques. Et je vous remercie de votre attention.